Je suis très heureux de le recevoir en studio. On s'en est parlé en début de semaine. Il est directeur général du bureau de projet du tramway ou du transport structurant, c'est selon. Il s'agit de M. Daniel Genet. Il est devant moi dans nos studios. M. Genet, bonjour et bienvenue au FM 93.
Bonjour, M. DM.
Donc, M. Genet, je veux commencer par... D'abord, votre rôle, définir qui vous êtes par rapport au projet de tramway, parce que, évidemment, c'est un projet qui est très contesté, qui est sur la place publique et qui est grandement débattu dans nos émissions comme ailleurs. Vous, vous êtes arrivé, vous avez été nommé l'année dernière. Juste expliquez-nous votre background, puis comment vous en êtes arrivé au tramway à Québec. Là.
Donc, fort d'une expérience de 30 ans dans l'armée canadienne comme ingénieur. J'ai quitté l'armée en 2011. Passé les 8 dernières années, entre autres, à travailler sur le projet du train léger à Ottawa pour une courte période. Par la suite, travailler un peu sur le projet de l'échangeur de Turcot à Montréal. Et les 5 dernières années, travailler sur le projet du pont Champlain à Montréal.
Mais ça, c'était pour le compte de SNC-Lavalin?
C'est du compte, le compte de signature sur le Saint-Laurent. Okay. SNC-Lavalin, c'était un consortium qui incluait SNC-Lavalin. Et dans ce contexte-là, j'étais essentiellement le bras droit du directeur de projet. Et ce qui m'amène à Québec, essentiellement, c'est agir à titre de directeur de projet. Mais du côté public, hein, donc du côté de la ville, pour s'assurer qu'on planifie, qu'on soit, dirige correctement ce grand projet.
Là, vous arrivez ici, j'ai vu que vous avez défendu le projet. Là, ça fait quelques jours qu'on vous voit sur différentes tribunes. D'abord, est-ce que vous, là, vous travaillez du côté public, vous l'avez dit, là, vous êtes en fonction publique d'une certaine façon, là, parce que vous êtes payé par dans le fond, votre salaire est payé par la Ville de Québec, donc par les contribuables de la Ville de Québec, ultimement. Est-ce que c'est le rôle d'un fonctionnaire, on va régler les questions de base,
ouais.
Est-ce que c'est le rôle d'un fonctionnaire ou ça serait pas plutôt le rôle d'un élu de promouvoir le tramway à Québec? Parce que j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai été en politique pendant 10 ans, je suis dans les médias, ça fait 10 ans, puis j'ai jamais vu un fonctionnaire prendre la place du maire ou d'un ministre pour défendre le projet pendant que le maire ou le ministre se cache.
Je pense que mon rôle dans cet effort-là de communication, c'est de bien expliquer, démystifier le projet, le volet technique plus spécifiquement. C'est un grand projet. C'est très complexe. Ça, c'est 3,3 milliards. C'est 23 kilomètres de tramway. C'est 16 kilomètres de trambus. C'est des nouvelles voies réservées. C'est tout ça, c'est très, très compliqué. Et puis, on veut nécessairement expliquer ça aux gens. Donc, je pense qu'il y a un rôle de complémentarité entre les élus et moi comme directeur de projet.
OK. Mais il y a quand même un... On a l'impression que vous n'êtes pas un ingénieur. Vous êtes plus un pompier. Vous arrivez ici pour un peu éteindre le feu parce que vous savez comme moi que... Écoutez, il y a plus que la moitié de la population de Québec maintenant qui est opposée à ce projet-là. On est plus opposé maintenant au tramway qu'on l'était au SRB qui lui-même a déraillé. Vous avez une grosse côte à remonter, là.
Ben, un bon directeur de projet, c'est un peu un homme à tout faire, hein? Donc, dans le quotidien de mes activités, je dirige une super belle équipe de projet, des jeunes professionnels passionnés, dévoués, qui travaillent sur le projet. Ça veut dire planifier, concevoir, régler les problèmes techniques, rallier la portée, les éléments du projet avec le coût, mais ça veut dire aussi communiquer. Et je l'ai fait dans le cadre du projet Champlain, du nouveau pont Champlain à Montréal. J'ai fait beaucoup d'efforts de communication. Encore une fois, pour...
Les éléments techniques, là.
Démystifier les éléments techniques. Je n'ai pas joué d'aucune façon sur l'arène politique.
Mais parlons-en des éléments techniques, parce que le tramway, c'est très technique. Puis beaucoup de gens se demandent pourquoi un tramway. D'abord, le choix à la base est questionné par beaucoup de citoyens. Il y a des gens qui nous parlent d'un SkyTrain, mais encore beaucoup plus d'un métro qui serait... selon tout le monde, puis c'est vrai, là, plus acclimaté à notre climat. Pourquoi l'option du métro a été rejetée du revers de la main sans études sérieuses?
Bon, il y a eu des études sérieuses. Ça se fait depuis essentiellement le début des années 2010 qu'il y a eu multiples études dans le contexte du projet. Nécessairement, il y avait 4 modes qui ont été regardés plus récemment dans l'étude des modes lourds qui a été produite par la firme française Systra, qui a été validée par 2 profs des HEC.
Oui, mais c'est quand même une firme qui a des intérêts dans le tramway. T'sais, c'est sûr que moi, j'aurais aimé ça que ça soit une étude indépendante. C'est un gros problème, ça. À la base, M. Genet, là, On peut pas demander à quelqu'un qui a un intérêt pécunier dans un projet d'évaluer une alternative. C'est comme si on demandait à McDonald's d'évaluer que le travail qui est fait chez Harvey. Ça marche pas.
C'est en plein pour ça qu'on est allé chercher les deux professeurs pour valider l'étude de façon indépendante.
Pourquoi on peut faire une étude de façon indépendante totalement?
La réalité, quand on parle de tramways modernes, il y a 50% des tramways modernes dans ce monde qui ont été planifiés, conçus et dans lesquels Systra a été impliqué. Mais Systra a aussi fait des métros dans le monde. Il faut comprendre ça. Ils ont fait les deux. C'est une compagnie qui fait des systèmes de transport. Donc, nécessairement, eux étaient bien placés pour faire la comparaison entre le tramway, le train léger, le monorail et le métro. Et les conclusions auxquelles ils sont arrivés, c'est que lorsqu'on regarde de l'achalandage qui va être généré dans la ville de Québec avec la capacité que fournit un tramway, c'était la meilleure adéquation entre les deux. Et après, l'autre grande notion, c'est le coût. Quand on regarde le multiplicateur de coûts entre le métro et puis le tramway, c'est de l'ordre de 5. Donc, tu sais,
bien à Montréal, simplement. Ils parlent d'une ligne rose. Là, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait une ligne rose. C'est 29 km qui ont évalué que ça coûtait 6 milliards. Nous autres, à 3,3, ça veut dire qu'on préfère 16-17 km de métro à Québec?
Il faut faire attention, le 3,3 milliards, c'est pour le réseau structurant de transport commun. C'est l'ensemble de l'œuvre.
Mais on peut commencer dans un bout, on peut faire un bout de métro de 15-20 km.
Ce qu'on fait nous autres, c'est qu'on a dit qu'environ 70% de ce 3,3 milliards, donc environ à peu près 2,3 milliards, qui a été dédié au volet du tramway. Donc, on considère qu'avec ce 2,3 milliards, on vient acheter essentiellement 23 km de tracé de tramway. Et on laisse l'autre milliard pour la composante 2, les trambus et les infrastructures dédiées, les nouvelles voies réservées. Donc, ce qu'on cherche à livrer, c'est pas un projet de tramway, c'est un réseau structurant de transport commun.
Là, il va y avoir une dalle de ciment ou de béton en plein milieu de René Lévesque ou de partout ailleurs où le tramway va passer à Québec, de 20 cm, qui va bloquer 150 intersections, grosso modo. C'était pas nécessaire. Tous les autres modèles dont on nous avait parlé, qui s'inspiraient supposément le tramway de Québec, tous les autres modèles n'avaient pas ça. Pourquoi à Québec, on a décidé d'empester la vie des automobilistes, de compliquer les problèmes de déneigement, de sécurité publique, etc.? Pourquoi cette dalle de 20 cm? Parce qu'hier, cette semaine, on a reçu Jean Rousseau, qui est le seul conseiller en passant à l'Hôtel de Ville, qui a été élu en disant qu'il était pour le tramway, puis lui, il est contre ça. Expliquez-moi pourquoi cette décision-là a été prise sans consulter personne puis que la population n'a jamais dit un mot là-dedans.
Quand on regarde les tramways modernes dans un contexte comme à Québec, et on se réfère aux travaux de Systra, généralement, il y a cette plateforme surélevée. Je vais tuer cette notion-là qu'on est, on n'est pas en plateforme surélevée. Généralement, quand on parle de
Bordeaux, il n'y en a pas. À Toronto, il n'y en a pas.
Faites attention à Bordeaux, là, quand on prend
des photos. C'est le modèle qu'on nous a utilisé. Le Bain-la-Bombe est revenu de Bordeaux, puis c'est là qu'il y a eu l'idée d'avoir un tramway.
Laissez-moi compléter la réponse. Je veux dire, à Bordeaux, essentiellement, on se trouve dans une situation où dans le centre-ville même de Bordeaux, où il y a des places public, hein? Il y a des places publiques. Oui, on est surface à surface. Il n'y a pas de plateforme surélevée. Mais la minute que vous sortez des places publiques, on se retrouve avec cette plateforme surélevée qui, à la base, fait quoi? Ça crée ça protège le tramway, sa fiabilité, sa régularité des automobilistes. Donc, tuons cette notion-là là, que partout dans le monde, là, il n'y a pas de plateforme surélevée.
Parce que, monsieur, je n'ai une des raisons pourquoi il y a autant de gens qui sont opposés au tramway à Québec et pourquoi je pense que, malheureusement, votre projet ne passera pas, c'est que on a l'impression que c'est en guerre contre la voiture. 1200 places de stationnement éliminées, 150 intersections, ce qu'on pourra plus passer. Au début, on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de fil électrique dans les airs. Là, on apprend dans votre projet qu'il va y avoir une toile d'araignée qui va être au-dessus de nos têtes. On va être obligé d'abattre tous les arbres centenaires le long du tracé. Je veux dire, si on avait creusé là, tous ces inconvénients-là, ils n'auraient pas. Puis les automobilistes de Québec auraient la vie pas mal plus simple. Là, vous allez éventrer la ville pendant 5 ans. Ça va être l'anarchie aux quatre coins de la ville. Puis imaginez, là, vous n'avez pas l'appui de la population en partant. Imaginez-vous quand vous allez bloquer puis quand la tête des ponts, ça va être le bordel à Québec. Est-ce que pourquoi vous prenez pas ça en considération avant de vous lancer dans un projet tête première puis pas consulter personne?
Moi, mon rôle, c'est pas d'embarquer d'aucune façon sur la glace politique. On m'a donné un mandat de diriger un projet. On veut livrer, parlons plus spécifiquement du tramway, on veut livrer un tramway qui est sécuritaire, qui a une qualité de service, hein, qui a une qualité de service qui nous permet essentiellement d'avoir régularité, fiabilité sur le 23 km tramway. On veut que ça soit bien intégré à la ville de Québec. Puis ça, c'est important de comprendre. Hein. C'est un projet de transport commun qui vient aussi requalifier la trame urbaine. Si vous prenez le même projet, vous allez par exemple à Ottawa. Ottawa, c'est un projet de transport en commun, de train léger.
Parlez-moi pas des exemples d'Ottawa. Encore hier, là, il y avait des problèmes, puis il a fallu qu'ils sortent 13 autobus d'urgence parce que le tramway, il y a eu des problèmes, puis pendant qu'il y a des tempêtes de neige, il y a des problèmes, puis on le sait qu'on va revivre ça à Québec. Les tempêtes de neige, nous autres, là, c'est normal, on a eu 25 cm dimanche. Là.
C'est une chose qui nous inquiète pas particulièrement dans le bureau de projet, c'est la neige. Okay. Au contraire, c'est le verglas.
Parlez-moi de la neige. Ouais. René Lévesque. Il va y avoir une voie de chaque bord, parce que vous allez éliminer des voies, là, vous allez éliminer du stationnement. Le tramway va prendre la majorité de la chaussée. Là, vous allez être sur une dalle de béton surélevée. Comment vous allez nettoyer l'hiver sans fermer René Lévesque?
Donc, l'intention, essentiellement, c'est de donner à une entité la responsabilité de déneigement. Donc, la ville va garder cette responsabilité de déneiger la plateforme du tramway avec de l'équipement qui sera fourni par le consortium. Et on va simplement déneiger en priorité la plateforme. Et on va faire comme...
OK, mais là, vous allez envoyer la neige dans les chaussées de chaque barre.
Comme qu'on fait normalement. Okay. Il n'y a pas de changement.
Non, il y a un gros changement parce qu'il n'y a pas de dalle de béton présentement sur René Lévesque. Là. C'est facile de pousser puis de l'enlever. Là, vous allez être obligé de commencer par le milieu, d'envoyer ça chaque barre. Là, ça veut dire que René Lévesque va être barré, là, parce que si vous barrez des deux barres, il y a juste une voie. Fait que ça veut dire combien d'heures ça va prendre, combien d'heures René Lévesque va être bloqué parce qu'on va déneiger le tramway?
Je ne qualifierais pas cette réponse en termes d'heures. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une solution tout à fait pragmatique où la ville maintient la responsabilité du déneigement de la plateforme. C'est sûr que quand
sais qu'ils vont le déneiger, le monsieur Genet. C'est pas ça que je suis en train de remettre en cause. Je veux juste savoir l'impact pour l'automobiliste qui prend René Lévesque à tous les jours. Combien d'heures que René Lévesque va être bloqué? Parce que présentement, quand il déneige, il n'y a personne qui est bloqué. La déneigeuse, elle passe, puis elle peut pousser la neige, puis il n'y a pas de dalle de béton dans le milieu, puis la priorité pour le tramway.
L'intention, c'est pas de changer la qualité de service du déneigement sur René Lévesque ou aucune autre artère dans la ville de Québec. Au contraire, on travaille très fort pour maintenir cette qualité de déneigement-là. Dans le détail, on comprend que c'est un souci des citoyens de la ville de Québec. On travaille très, très fort sur cette solution-là, ce scénario-là, avec les travaux publics, avec Systra qui a de l'expérience. Mais dites-vous que oui, on comprend que ça peut être inquiétant pour les gens. Que ce soit le déneigement, que ce soit le déménagement, que ce soit...
Mais le déneigement, parlons-en. Là, vous avez dit qu'il fallait que le monde déménage dans la nuit. Là. Il y a encore des auditeurs qui me parlent de ça. Là.
Effectivement, M. Duhaime, regardez, dans une année, là, il y a des choses qu'on aimerait, des paroles qu'on aimerait reprendre.
Vous regrettez cette parole-là,
je regrette cette parole-là. Okay. Ce que je peux vous dire, c'est que... Je vais vous donner l'exemple de la première avenue. Première avenue, on comprend que c'est un milieu qui est contraint. Il faut être capable de ramasser les matières résiduelles, il faut être capable de déneiger, il faut être capable de déménager. Donc, ces services-là, municipaux de proximité, vont être fournis aux citoyens comme qu'ils sont aujourd'hui. Peut-être d'une façon un peu différente, mais ils vont être surmis.
L'autre truc que je veux vous parler, vous avez parlé un petit peu brièvement tantôt du déglaçage, parce que à Québec aussi, on a de la neige, mais on a aussi de temps en temps du verglas et de la glace qui nous tombe sur la tête. Là, on va avoir une toile d'araignée au-dessus de la tête. Là. Il va y avoir des fils qui vont être problématiques parce qu'ils sont au-dessus et du tramway et des voitures. Qu'est-ce qui va arriver quand il y a du verglas? Est-ce qu'il va falloir fermer encore une fois les artères où il y a le tramway pour pouvoir déglacer ça?
Non, en soi-même, le pantographe, qui est l'équipement au-dessus du tramway qui vient se connecter à la ligne aérienne de contact.
Ça, c'est ce que j'appelle la toile d'araignée.
La toile d'araignée, oui, c'est la ligne aérienne de contact, un terme technique. Là. Donc, dans la mesure où le tramway est en opération, parce qu'il va être en opération de 5 heures le matin jusqu'à 1 heure du soir, donc sur 20 heures, dans la mesure où le tramway passe, il n'y a pas suffisamment d'accumulation de verglas pour créer un problème. Et le pantographe va être équipé pour faire le nettoyage de la ligne aérienne de contact. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus dans le verglas, c'est les aiguillages au sol. Les aiguillages au sol, parce que là, on a de la neige, on a de la glace. Dans certains cas, on a des carrefours traversants. Donc là, dans certains endroits, on va venir chauffer les aiguillages. Il faut chauffer les intersections.
Donc, il va y avoir des câbles chauffants.
Dans la plateforme, un peu comme dans votre salle de bain, là, votre plancher de salle de bain chauffant, c'est le même principe pour les aiguillages.
OK. Je veux aussi qu'on parle, parce que je veux qu'on parle des intersections, des 140 intersections, parce que ça a beaucoup fait jaser. Et on essaie de comprendre comment ça va fonctionner. Moi, par exemple, là, j'habite dans Montcalm, puis j'ai tous mes voisins, ils sont sur la panique. Là. On a, nous autres, une rue qu'on nous a semi-fermée pour mettre une piste cyclable qui s'appelle Père Marquette, donc qu'on ne peut plus utiliser pour tourner en rond. Et là, on va avoir René Lévesque où on risque d'avoir une dalle de béton. On va être enclavé. Là, il va falloir faire des tourniquettes pendant je sais pas combien de temps avant de pouvoir rentrer chez nous. Comment ça va fonctionner? Puis pourquoi vous bloquez nos artères? Pourquoi on peut plus passer d'un bar à l'autre? Puis pourquoi on pourra plus tourner?
Donc, premièrement, ce qu'on cherche à créer, c'est une qualité de service avec le tramway. Donc, le tramway, on vient créer cette plateforme surélevée. On vient de le protéger des automobilistes. Ça lui donne régularité, fiabilité sur l'axe tramway. Après, on a la notion des fameux virages à gauche. Hein. Donc, si on permettait à toutes les intersections qu'il y ait des virages à gauche...
Comme c'est le cas présentement?
Ben, non, dans la ville de Québec, il y a présentement 400 intersections où les virages à gauche sont interdits. Dans le cadre du tramway, on parle d'à peu près un 150...
De plus.
Supplémentaire. Effectivement, vos chiffres sont tout à fait corrects. Oui. Donc, quand on arrive à une intersection, et si on permettait à tous les carrefours d'intersection d'avoir un virage à gauche, mais là, ça aura un impact sur la régularité, la fréquence, la rapidité du tramway. Donc, on vient essentiellement identifier des carrefours qu'on appelle pas de virage à gauche. Et il va y avoir après des carrefours traversants. C'est que si vous en descendez sur René Lévesque et habituellement vous êtes habitué de tourner à gauche et vous ne pouvez plus tourner à gauche, mais vous allez faire essentiellement descendre potentiellement au prochain coin de rue. Tourner à droite et tourner encore à droite pour revenir à 90 degrés pour traverser le carrefour.
Il va faire trois virages de plus, dans le fond.
Effectivement. Donc, c'est ce que je considère des ajustements aux habitudes des automobilistes et des usagers. Donc, ça va se produire à certains endroits sur le tracé de tramway. Et c'est un peu, je dirais, le prix à payer pour avoir cette régularité.
Mais sauf que là, est-ce que ça veut dire que Père Marquette, vous allez enlever la piste cyclable? Parce que nous autres, on ne peut pas tourner à droite, là, parce que les rues sont barrées pour les cyclistes. Est-ce que là, il va falloir enlever la piste cyclable sur Père Marquette?
Donc, tout en périphérie du tracé du tramway. Donc, on a regardé avec l'étude des impacts sur les déplacements qui étaient faits par le service de transport et de mobilité intelligente de la ville. On a regardé tout ce qui se passe de part et d'autre. Donc, nécessairement, dans certains cas, il va y avoir des ajustements. Il va y avoir des ajustements au circuit, au parcours des cyclistes. Il va y avoir des ajustements pour les piétons. Donc, tout ce détail-là va être communiqué aux citoyens. On va avoir des comités de bon voisinage qui vont être créés. On vous invite, M. Duhem, à venir au comité de bon voisinage.
Monsieur, savez-vous quoi? Je suis content que vous m'invitiez, M. Genet, mais j'aurais aimé ça que vous m'invitiez puis vous invitiez la population de Québec quand c'était le temps de choisir où on allait mettre le 3,3 milliards. Le problème là, que vous avez, le plus gros problème de votre mandat, là, c'est qu'il n'y a aucune acceptabilité sociale puis il n'y a aucune légitimité démocratique à votre projet. M. le maire, il s'est fait élire en nous disant qu'il était contre le tramway. Le parti qui était pour a eu 15 % des votes et aujourd'hui, on se ramasse avec un tramway que le maire essaye de nous rentrer dans la gorge puis essaye de faire vite avant les prochaines élections pour pas qu'on ait notre mot à dire. Est-ce qu'il va être trop tard? À partir de quand il est trop tard pour reculer comme contribuable dans ce projet-là puis dire on va prendre un autre modèle? C'est quoi la date? Est-ce qu'on va avoir un mot à dire démocratiquement ou si ça va être la date va arriver avant la date des élections?
Donc, présentement, on a un projet de 3,3 milliards et les deux paliers gouvernementaux, fédéraux et provinciaux, ont avancé le financement pour le projet. Donc, on travaille sur développer le projet. Si vous regardez les prochaines...
Ma question, c'est pas ça,
Monsieur. J'arrive, Monsieur Thiem, j'arrive. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi? Sous peu, on va lancer ce qu'on appelle un appel de qualification pour aller choisir une courte liste de candidats possibles pour soumissionner. On va choisir ces candidats-là probablement au mois de juin 2020. Après, on va lancer un appel de proposition, pour éventuellement choisir un consortium qui serait retenu pour le travail. Puis l'intention, c'est de se retrouver essentiellement à l'été 2021 avec un consortium retenu pour faire les travaux. Et là, on parle plus spécifiquement du tracé du tramway.
C'est quelle date?
On parle de l'été 2021.
Donc, ça va être avant l'élection. Juste avant l'élection. 2-3 mois avant l'élection. Voyez-vous comment c'est manigancieux puis c'est politique, ce projet-là? Ils veulent nous le mettre dans la gorge avant qu'on dise qu'on pense. Il n'y a pas eu de référendum. Il y a eu des consultations publiques bidons. Là, vous m'invitez puis vous dites, hey, vous avez votre mot à dire. Mais oui, on a notre mot à dire un coup qu'on est devant un fait accompli. On peut pas être d'accord avec un projet. Pourquoi si votre projet il est si bon que ça, pourquoi vous le soumettez pas à la population? C'est eux qui vont payer. Il me semble qu'ils devraient avoir leur mot à dire.
Moi, M. Duhem, je dirige le projet. J'ai un mandat qui est quand même très clair. C'est planifier, concevoir, réaliser ce projet-là. Et le mandat qu'on m'a donné, c'est de réaliser un projet de 3,3 milliards avec les trois composantes qu'on a parlé.
Mais ceux qui payent, on leur a jamais demandé ce qu'ils en pensaient.
Moi, M. Duhem, regardez, je n'embarquerai pas sur la glace politique. Mon rôle, c'est pas de parler de référendum, de sondage, c'est de vous expliquer le volet technique du projet. C'est pour ça que les comités de bon voisinage...
Un instant, M. Genet, vous n'avez fait de la politique. Là. Vous étiez dans le Journal de Québec lundi matin. Là. Vous avez passé 3 heures avec le Journal de Québec, si on se fait à l'article de Karine Gagnon. Et vous parlez du fait que vous attaquez l'opposition puis certaines radios privées à Québec. Si ça, c'est pas faire de la politique, je me demande c'est quoi, là?
Monsieur Thuam, je suis ici aujourd'hui avec vous.
Non, je sais
pour jaser.
Mais c'est quand même, vous avez quand même un
petit
embarqué un peu sur la glace politique.
Vous m'avez invité. Ça m'a fait plaisir d'être ici aujourd'hui.
Merci d'être là.
Et de la même façon, je vous invite à venir dans le bureau de projet voir comment ça marche. Prendre le temps de comprendre c'est quoi 3,3 milliards livrer un projet complexe. Je vous invite à venir. Je vous invite à venir au comité de bon voisinage pour participer. Pour y participer. Il me semble que c'est important.
Oui, mais vous m'invitez après que le projet il est déjà adopté puis il est déjà canné. On aurait aimé ça être invité quand c'était le temps que la population ait son mot à dire.
C'est
juste ça, mais non, mais je vous explique pourquoi j'irai pas, monsieur.
Je comprends votre frustration, mais moi, je dirige le volet technique du projet. J'ai un mandat qui est clair et tant qu'à avoir un mandat comme j'ai, et je suis fier d'avoir ce mandat-là, je trouve que c'est un super beau projet de ma perspective, clairement. T'sais, on veut bien le faire. Et dites-vous là, que les gens qui travaillent dans le bureau de projet sont des citoyens de Québec qui veulent que ça marche bien.
OK. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi le tramway aujourd'hui est une bonne solution alors qu'il y a 60 ans, on disait que c'était nuisible puis on l'a enterré. Puis à Montréal, ils ont fait la même chose. Pourquoi le tramway, tout d'un coup, est bon? Pourquoi il n'a pas été bon à Montréal, ni à Québec? On l'a enterré à Montréal, ils sont jamais revenus au tramway, ils ont décidé que c'était un métro qui était mieux. Pourquoi nous autres, faudrait retourner à ce qu'on avait il y a un siècle?
Le tramway moderne d'aujourd'hui est d'aucune façon le tramway qui a quitté les rues de la ville de Québec il y a 50 ans. Là, on parle d'un tramway moderne, silencieux, fiable, et qui s'intègre très bien à la trame urbaine. La réalité aujourd'hui, c'est que toutes les grandes villes au monde sont confrontées avec exactement le même problème. La population augmente, la congestion automobile augmente, puis là, il n'y a pas plus d'espace pour construire des routes. Donc, vous avez un choix à faire, vous créez des modes de transport lourds avec de la capacité. Les autobus, ça a fait leur temps à Québec, là. On est rendu avec on a passé d'autobus simples à
des autobus. Mais les 800, ça va très bien, là.
Vous avez des endroits où on n'est pas dans des autobus, on est dans des trains-bus. Hein? Donc, le principe de créer un tramway, c'est de créer de la capacité et aussi de la régularité. Vous arriverez à l'arrivée à votre coin de rue sur René-Lévesque et vous savez que si vous venez de manquer un tramway, il y en a un prochain, c'est 1 heure de pointe qui va passer à l'intérieur de 4 minutes. Donc, cette régularité-là, cette fiabilité, va faire qu'on va se retrouver dans une situation où à l'an 1, qu'on va mettre en place le tramway, on considère qu'il va y avoir une augmentation d'achalandage dans le transport commun de l'ordre de plus de 30 %. C'est parce que les gens vont être attirés par le réseau.
Mais pourtant, on a lu des études qui nous disaient que c'était juste 2 % du monde qui vont abandonner leur voiture pour aller avec le tramway, alors que le métro, c'était beaucoup plus élevé.
2 %, c'est ce qu'on appelle le rapport modal. Mais en termes d'achalandage dans le réseau de transport en commun, on parle d'une augmentation de 11 millions à l'an 1, plus de 30 %.
OK. Je veux que vous me parliez maintenant des travaux. Parce que là, vous me parlez de quand ça va fonctionner, mais avant que ça fonctionne, on en a pour 5 ans. Là, vous me dites que ça va commencer juste avant les élections pour être bien sûr qu'on ne peut plus reculer aux élections puis qu'on ne peut pas parler en tant que citoyen, qu'électeur. Fait que là, les travaux vont commencer l'été 2021. Ça va se poursuivre pendant combien d'années? Puis qu'est-ce qui va être bloqué? Mettons, là, prenons René Lévesque ou prenons Laurier. Pendant combien de temps la rue va être éventrée?
Donc, on choisit le consortium à l'été 2021. Ce consortium-là, il va se mobiliser. Hein? Il faut qu'il bâtisse son équipe. Donc, on anticipe les premiers travaux majeurs sur chantier au printemps 2022. Donc, printemps 2022, première année de travaux. Ce qu'on envisage, c'est que les travaux vont essentiellement commencer dans l'ouest du tracé. Hein? Donc, entre le terminus Legendre et essentiellement l'Université Laval. Ça va être la première année en 2022. Après, on va arriver en 23, 24, 25. Là, on va étendre les travaux sur l'ensemble du tracé jusqu'à Charlebourg. Puis quand on arrive en l'année 2026, là, on va avoir une réduction des travaux parce qu'on est en fin de projet. Puis dans la première année, quand on se lance en 2022, en plus des travaux de Legendre, Université Laval, on va aussi avoir les travaux sur le grand tunnel. Là. Donc, il y a déjà un phasage de construction qui a été développé. Vous voyez, c'est quand même déjà assez précis. On sait à peu près les travaux qu'on va faire dans chacune des années. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans chacun des secteurs? Bien, c'est là où dans les fameux comités de bon voisinage qu'on va lancer sous peu, on va expliquer aux gens. Voici que ça va l'air spécifiquement dans votre secteur en termes de produits finaux. Voici ce que ça va avoir l'air en termes de travaux et d'impact sur l'accès spécifique à votre résidence. Et voici les mesures d'atténuation qu'on met en place, entre autres, les nouveaux parcours d'autobus, les détours et tout ça. Donc, tout ça va être expliqué aux citoyens, mais à travers les comités de bon voisinage spécifiques à chacun des quartiers.
Mais pourquoi on ne fait pas ça avant? C'est parce que tout seul, on aurait dû avoir ça, cette information-là, avant, pas pendant. C'est juste ça le problème. C'est juste que je trouve que vous faites les choses à l'envers. Tu sais, comme hier, par exemple, on a appris qu'il va y avoir du Wi-Fi dans le tramway. On ne l'a pas appris parce que vous êtes venu nous l'annoncer puis parce que vous nous avez expliqué comment ça va fonctionner puis si ça va être gratuit ou pas. On l'a appris parce que vous avez fait un appel d'offres puis que là, il y a un journaliste qui a ma main là-dessus. Puis on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de transparence puis qu'on apprend les affaires en retard. Pourquoi vous n'allez pas au-devant des choses?
Moi, quand je suis arrivé dans le projet en mars 2019, on avait un bureau de projet d'une trentaine de personnes qui avaient fait déjà les premiers éléments du projet, qui étaient bien lancés. Déjà, juste en l'espace de moins d'un an, on est rendu à 90 personnes dans le bureau de projet. Donc, on a accéléré le tempo, on raffine les choses. Quand on commence un grand projet, on fixe les grands éléments de conception, de planification. Puis plus on avance, on vient raffiner. Donc, il y a des réponses que je vous ai données aujourd'hui au niveau du déneigement, du déglaçage, déménagement, matière résiduelle, que quand on a eu les rencontres publiques d'information au mois de juin, on ne les avait pas, ces réponses-là. Donc, on travaille, on
avance. Mais comme le Wi-Fi, là, vous le savez, s'il va y avoir un Wi-Fi, là, vous le saviez, ça?
Le Wi-Fi, pour moi, c'est un élément très technique. Et si vous alliez
mais
sur
pour
le
passager, c'est important.
Si vous alliez sur le site web du projet, c'est déjà sur le site web depuis longtemps. Donc, ce n'est pas une nouvelle. Là. C'est juste que là, on a lancé un appel d'offres pour aller choisir quelqu'un qui va nous aider à développer cet élément-là. Donc, oui, c'est un projet très complexe. Hein? 3,3 milliards. Je répéterai pas tous les éléments, mais à tous les jours, on avance. Et il y a une des choses qui est super importante pour moi comme directeur de projet, c'est de venir expliquer aux gens le volet technique du projet. Et je m'engage à le faire.
Je vous pose une question très technique. Est-ce que dans les contrats que vous allez signer avec vos fournisseurs puis vos partenaires, est-ce qu'il va y avoir une clause comme quoi la ville va pouvoir reculer si jamais démocratiquement on décide aux élections l'année prochaine qu'on veut une administration qui est contre le tramway? Ou est-ce que les contribuables vont être obligés pareil de payer même si on ne veut plus du tramway?
Bien, quand on signe un contrat avec un consortium, on signe un contrat.
J'ai juste signé un contrat, moi, en disant que si jamais j'ai jusqu'à telle date pour changer d'idée puis je paye juste une partie de la facture, ça se négocie tout ça dans un contrat. Je veux juste savoir si ça va être inclus dans les contrats que vous allez signer.
Ce n'est pas l'intention d'inclure ce type de clause-là dans un contrat parce que ce n'est pas la norme dans l'industrie de créer ce genre de mécanisme.
Non, mais ce n'est pas la norme non plus de faire un projet de 3,3 milliards sans demander à la population ce qu'ils pensent, M. Genet.
Encore une fois,
je vous dis juste que la norme ici, il n'y en a pas, on s'entend-tu, là?
Moi, je livrais un projet dont les citoyens de Québec vont être fiers. Okay.
Vous seriez d'accord qu'il y ait un référendum à Québec et qu'on soit fiers parce qu'on a voté en faveur? Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, vous?
Moi, je n'embarque pas dans l'arène politique, M. Duhaime. Je le répète encore. Moi, je suis vraiment du côté technique. Hein? Je viens expliquer, je viens démystifier le projet. Je pense qu'en démystifiant le projet, ça permet aux gens de mieux comprendre. Les gens sont bien placés pour prendre leurs propres décisions.
Je veux comprendre aussi le tunnel. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y aura pas de tunnelier, que vous allez le faire à ciel ouvert. Donc, vous allez creuser à partir du sol.
C'est faux, ça.
Ça, c'est faux. Parce que ce que j'ai compris, c'est à partir des érables, je pense, que vous allez le tunnel commence.
C'est qu'il faut comprendre, il y a deux tunnels. Hein?
Ah, il y en a deux, OK. Allez-y.
Je vais appeler ça le petit tunnel dans le secteur du pôle de Change Sainte-Foy. Et effectivement, ce petit tunnel-là était ce qu'on appelle en tranchée ouverte, à ciel ouvert. Le tunnel, le grand tunnel sous la colline parlementaire qui commencera à son entrée nord au parc Jean-Paul Allier et à sa sortie ouest et s'en s'amenant à l'avenue des Érables. Il y a différentes façons de forer un tunnel. Il y a l'approche que vous avez mentionnée, tunnelier, qui est la plus rapide, mais qui est aussi pas nécessairement propice aux conditions ici à Québec. Donc, on est en train de regarder c'est quoi les meilleures solutions et on semble se diriger vers une solution, on appelle ça forage et sautage. On vient forer dans la face du roc, on vient dynamiter, on vient extraire essentiellement à peu près 1,5 mètre de roc à tous les jours. Donc, le choix de la solution pour forer le grand tunnel de la colline parlementaire va appartenir au consortium qui est retenu.
OK. Donc, on ne le sait pas encore comment ça va. Ça va dépendre du consortium.
Oui, parce que vous allez recevoir. Parce que le consortium, il va faire sa proposition, il va faire une analyse économique, un coût-bénéfice. Il va trouver la méthode qui fait le plus de sens. Mais à cause des contraintes techniques, hein, parce que passer de la base à Hauteville, c'est une christifie de pente. Hein, donc, ça devient une contrainte. Et des tunneliers, là, c'est de l'équipement hyper spécialisé. Donc,
ça. Et on va peut-être en avoir un pour le troisième lien, là. C'était juste ça mon point. C'est juste que si le troisième lien, on a déjà un tunnelier en ville, on ne pourrait pas l'utiliser aussi pour le tramway ou pour le métro?
Le consortium, ça appartient à lui de choisir la façon qu'il va creuser le tunnel. Le plus rapide, ça serait un tunnelier. Le moins rapide, ça serait forage et sautage. Il va faire son choix.
Là, je veux que on termine sur quelque chose qui est très important. C'est peut-être la base, c'est peut-être le plus important pour tout le monde à Québec, c'est les services d'urgence. Quand on a annoncé qu'il y a 150 intersections où on pourrait plus virer, il y a beaucoup de gens qui ont eu des questionnements sur est-ce que ça va mettre en cause les services d'urgence, les policiers, les ambulances, les pompiers. Beaucoup de gens étaient très inquiets. Pouvez-vous nous assurer que ça n'allongera pas les délais pour les services d'urgence à Québec?
Ça n'allongera pas les délais.
Même s'il faut qu'ils fassent trois virages plutôt qu'un?
Dans certains cas, au carrefour qui sont, qu'on appelle non traversants, il va y avoir l'habilité pour les premiers répondants d'y traverser. C'est juste qu'on ne permettra pas aux automobilistes de tous les jours d'y traverser. Il n'y a aucune inquiétude.
Est-ce qu'il y a d'autres artères aussi où on ne pourra carrément pas tourner parce qu'il y a une dalle de béton, ils ne pourront pas passer plus par-dessus. Là. Les camions de pompiers ne pourront pas passer par-dessus la dalle.
Un camion de pompiers peut passer sur une plateforme.
Il va pouvoir passer par-dessus.
C'est très facile.
Les pompiers, puis les policiers, puis les ambulanciers aussi.
C'est ça. Donc, je pense que le message ici au niveau des premiers répondants, c'est que le niveau de couverture qui est offert aux citoyens de Québec ne changera pas.
Daniel Genet, directeur général du bureau de projet du tramway, merci beaucoup d'être venu nous visiter en studio. Vous viendrez plus souvent, vous êtes toujours le bienvenu.
Monsieur Duhem, ça m'a fait plaisir, puis je vous invite, hein, je réitère mon invitation, je vous invite à venir visiter le bureau de projet.
Je vous dis pas non.
Excellent.
Merci beaucoup.